Chapitre 2. Lorsque, venant du chemin de fer, on pénètre dans Alençon par la rue Saint-Blaise, on trouve bientôt à main droite un magnifique château Henri IV, précédé d'une cour royale. C'est l'ancien hôtel de Guise, occupé maintenant par monsieur le préfet. À main gauche, une petite maison lui fait face, brique et pierre comme lui, aussi modeste qu'il est fastueux, coquette cependant. Elle respire au rez-de-chaussée par deux fenêtres et une porte, et à l'étage par trois portes-fenêtres élégamment cintrées, ouvrant sur un balcon de fer. Trop fraîchement repeinte, elle a l'air d'un jouet tout neuf. En vain, une chapelle récente, analogue par sa fausse grâce à la rotonde de Lisieux, s'efforce de la déparer. C'est ici que naquit Thérèse. On peut sonner, on sera bien reçu. La maison est habitée et soigneusement entretenue par une charmante vieille dame, veuve d'un pasteur anglican, qui reçut la sainte sommation intime de rentrer dans l'ordre romain. On verra au fond du couloir d'allée l'escalier étroit, abrupt et luisant, à main courante d'acajou, dont l'enfant comptait chaque marche en appelant sa mère jusqu'à ce qu'elle répondît. On baignera dans l'atmosphère virginale de la grande pièce du bas, où Madame Martin se tenait, près de la seconde fenêtre, pour y préparer les modèles de ces dentelles précieuses que des ouvrières choisies exécutaient à son compte au dehors. Le même rideau blanc immaculé l'isolait dans son oraison, filtrait le jour sur son ouvrage. Elle eût tenté le pinceau de Vermeer de Delft. Au fond, comme par le passé, une cloison mobile, entièrement vitrée, ménage une sorte d'arrière-chambre qui servait de salle à manger. Au jour de fête, on ouvrait la cloison et l'on avait assez de champ pour dresser la table de chêne, toute rallonge déployée, où prenait place la famille au complet. Si chaque détail a changé, rien n'a vieilli. Le temps de Thérèse est le nôtre. Dans ce paisible coin de France, il n'avance qu'à petits pas. Tout est banal, solide et discret, les meubles, les boiseries, les cadres. L'âme n'a point quitté les choses, une prière la retient. Dépassant peu nombreux, un grand poids de silence, l'inaltérable silence de la province qui couvre, dit-on, bien des hontes, mais collabore aussi avec Dieu pour former des saints. Pourquoi faut-il mentionner ici la chambre natale de la jeune sainte, la chambre conjugale où l'amour épuré s'ingénia à n'être jamais qu'un devoir? Située au premier derrière la chambre des grandes sœurs, on a eu la pieuse idée de l'annexer à la chapelle contiguë. Ce n'est pas sans stupeur qu'en avançant vers la petite flamme qui tremble devant l'autel consacré, on découvre soudain à travers une grille une façon de stand pour exposition d'art mobilier selon le pire goût du faubourg Saint-Antoine, avant l'avènement d'un style du moderne qui du reste ne vaut guère mieux. Sous un jour cru, sur un fond aveuglant, trône un de ces grands lits confortables et honorables, ni beau ni laid, disons traditionnels, qui ont besoin d'effacement et de pénombre, car leur office doit demeurer secret. Mais celui-ci n'a cure de la tradition. Il s'exhibe, il se pavane, il fait orientation de son luxe remis à neuf. Le couvre-pied, le baldaquin et les rideaux l'habillent d'une soie peluche rouge groseille relevée de pompons dont il semble extrêmement fier. Une fenêtre à flore de dentelle lui répond avec récidive de rideaux groseille. Deux chaises, dont l'une pour enfant, un guéridon empire errent autour. Ici, l'imagination, d'accord avec l'effusion, renonce. L'implacable décor annule la Vierge au sourire dont la copie auréolée surplombe le lit sous le baldaquin. Les murs repeints d'hier nous refusent toute confidence. Le parquet gratté ou refait n'a gardé nulle souvenance d'avoir été foulé par un pas humain. Il se contente de reluire. Nous sommes loin de la chambre de Monsieur Vianney telle qu'on nous la conserve à Ars. Nous sommes loin, j'en puis répondre, de celle où Thérèse Martin poussa son premier cri vers Dieu. J'accorde que la piété des bourgeois ait des réussites moins scandaleuses. Leur aberration a trouvé ici sa limite, aussi n'y reviendrai-je pas. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'elle était en germe chez les Martins et a marqué l'enfant dès le berceau. Pourtant, monsieur et madame Martin n'étaient pas des bourgeois comme les autres. S'ils partageaient sur bien des points les goûts, les préjugés, les habitudes de leur classe, ils devaient, sur le plan chrétien, passer pour des originaux. Non que la religion ne tînt aucune place dans les soucis de leurs concitoyens. Les provinces de l'Ouest ont été longtemps protégées grâce à l'acquis des siècles et au sérieux de leurs habitants, grâce au contact journalier de la ville avec la campagne, comme la propagande des idées nouvelles. Sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire, l'Église avait marqué des points et reconquis un peu partout les positions que la Révolution lui avait fait perdre et dont l'Empire et la Restauration avaient amorcé la reprise par politique plutôt que par conviction. On s'étonne encore aujourd'hui de rencontrer dans le terroir français, en dépit des méfaits de la déchristianisation officielle, non seulement des noyaux rocheux de ferveur, mais comme de vastes couches alluviales à peine recouvertes de sable, où perdurent les convictions des ancêtres, et qu'il suffit d'une traînée de soc pour mettre à jour. La classe bourgeoise d'Alençon pratiquait le catholicisme. Pour la procession de la fête Dieu, on tendait des draps dans les rues. Les autorités tenaient à honneur de porter le dais du Saint-Sacrement. Les hommes assistaient à la grand-messe du dimanche, ils faisaient presque tous leur Pâques, et l'on pouvait compter les esprits forts. Mais les chrétiens de l'espèce du couple Martin n'étaient sans doute pas moins rares. Ils scandalisaient à rebours. Le refrain est de tous les temps. Ils exagèrent. Et rien de moins bourgeois que l'exagération. Originaire d'Athis dans les départements de l'Orne, le père de Monsieur Martin, qui avait fait les guerres de l'Empire et était resté dans l'armée après Waterloo, changeait souvent de garnison. C'est ainsi que Louis, le troisième de ses enfants, vit le jour à Bordeaux en 1824. Le capitaine Martin, quand il prit sa retraite, fixa sa résidence à Alençon, non loin de son hameau natal, pour assurer plus aisément l'éducation de sa famille. Aussi chrétien que soldat, il ne plaisantait pas sur le devoir. Exact en tout, il ne passait aucun manquement à la règle. Il légua à son fils Louis une piété qu'on pourrait dire militaire et cette prestance d'officier que celui-ci garda jusqu'à ses derniers jours. Louis était grand, se tenait droit, ne détournait jamais la tête. Il passait à 20 ans pour le plus beau garçon du lieu. Pourtant, il ne fut pas soldat. Chez des cousins de Rennes, il prit le costume breton et la vocation de l'horlogerie. Ce métier du silence et de précision devait aussi lui convenir. Il se perfectionna chez un ami de son père à Strasbourg. Il put méditer sur le temps, sur la brièveté des heures. Il avait un tour d'esprit poétique et il aimait les couchers de soleil. L'habitude qu'il avait contractée depuis l'enfance de tout considérer sous l'angle de l'éternité éveilla en lui le désir de se retirer sur les cimes pour contempler Dieu de plus près et l'adorer dans sa création. À 20 ans donc, il partit pour les Alpes, tantôt à pied, tantôt en diligence, mi-touriste, mi-pèlerin, et monta demander conseil dans leur solitude neigeuse aux religieux augustins du couvent du grand Saint-Bernard. Il savait trop peu de latin pour y être admis. Il décida de pousser à fond ses études. Son père y consentait, une maladie l'arrêta. Alors, un peu déçu, mais docile aux déceptions, il revint à l'horlogerie et, après un temps de stage à Paris, ouvrit une boutique à Alençon. Elle était sise rue du Pont-Neuf, à quelques pas de là, on voit encore le nom de Martin sur l'enseigne, au-dessus des montres et des pendules, des bagues et des chaînes de cou, car il joignit plus tard à son métier un petit commerce de bijouterie. Il vécut là, célibataire, jusqu'à l'âge de 35 ans. Que pouvait-on penser de ce moine horloger, beau de visage, réservé, distingué, instruit, à la barbe ronde et soignée, qui ne sortait qu'en redingote et coiffé d'un chapeau melon, qui traversait les rues sans regarder les femmes, même du coin de l'œil, qui semblait songer aussi peu au mariage qu'au plaisir, qui était capable de ramasser un ivrogne dans le ruisseau et de le ramener jusqu'à sa porte, qui ne manquait jamais la messe du matin et qui réunissait chez lui de vieux messieurs dévots pour examiner avec eux les moyens les plus efficaces de secourir les indigents, de relever les âmes pécheresses et d'aider les missionnaires à promouvoir dans le monde le règne de Dieu. Ce rat de bénitier avait à tous égards trop de prestige pour ne pas bousculer l'opinion reçue selon laquelle un homme d'œuvre ne peut être que sot, hypocrite et laid. Ajoutons, pour le situer, qu'il pêchait aussi à la ligne. Or, dans le même temps, Mademoiselle Zélie Guérin, fille d'un officier de gendarmerie en retraite, vivait et faisait vivre dans la maison que nous avons décrite, rue Saint-Blaise, son vieux père, son frère Isidore et sa sœur. Elle était du pays. Elle avait été élevée au couvent de l'Adoration. Un irrésistible penchant vers les misères humaines l'avait conduite à demander son admission chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Mais la supérieure de l'Hôtel-Dieu, sans raison, l'avait rebutée. Où Louis Martin, on l'a vu, avait échoué, Zélie Guérin échouait comme lui. Ce parallélisme singulier n'a pas été inventé après coup pour embellir une pieuse légende. Les faits sont là, dûment et solidement établis. L'argent manquait à la maison. Zélie s'improvisa dentelière. À dater de ce jour, on put l'apercevoir à sa fenêtre, assemblant les carrés de points d'Alençon et dessinant sur le papier les arabesques gracieuses d'après lesquelles on exécutait les commandes qui affluaient miraculeusement. Elle se recueillait. Dieu ne la quittait pas. Pour le servir plus pleinement, elle rêvait de prendre un époux qui fût aussi soucieux qu'elle de sa gloire et de mettre au monde beaucoup d'enfants qui lui seraient tous consacrés. Les deux ouvriers d'art, l'horloger et la dentelière, n'habitaient pas sur la même paroisse et leurs familles ne se fréquentaient pas. Ils s'ignoraient. Ils s'attendaient. Comment un beau jour ils se rencontrèrent sur le pont Saint-Léonard, comme Anne et Joachim à la Porte Dorée, Comment lui s'effaça pour la laisser, elle, passer? Comment leurs regards se croisèrent? Comment Zélie Guérin reconnut, à n'en pas douter, celui que Dieu lui réservait pour compagnon? C'est un secret qu'ont bien gardé les anges. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se devinèrent et se plurent, que les familles prirent contact et qu'une union s'ensuivit. Jaloux de sa propre virginité et se figurant que sa femme souhaitait abriter la sienne sous le voile subtil d'un mariage tout spirituel, Louis Martin vécut une année avec elle, des documents l'attestent, comme un frère avec une sœur, comme Saint Valérien avec Sainte Cécile. Ce paradoxe scandaleux et surhumain eût pu durer toute la vie. Mais Thérèse ne serait pas née, et il semble bien que ce mariage n'avait pas d'autre but dans le plan providentiel. Il fallut que l'épouse avouât à l'époux son désir secret d'être mère, de faire souche avec lui de saint, pour qu'il passât outre à son vœu. Celui de sa femme fut exaucé. Sur les 9 enfants qu'elle lui donna, 4 entre 6 mois et 6 ans, rejoignirent les cœurs célestes, et les 5 autres entrèrent au couvent. Comme premier nom de baptême, tous reçurent le nom de la Vierge. Il y eut successivement Marie-Louise, Marie-Pauline, Marie-Léonie, Marie-Hélène, Marie-Joseph-Louis et Marie-Joseph-Jean-Baptiste, Marie-Céline, Marie-Mélanie-Thérèse, et celle enfin qui devait être Sainte Thérèse de Lisieux. Hélène, Mélanie et les 2 Joseph, les 2 fils tant désirés dont on comptait faire des missionnaires, furent ceux que le ciel rappela pour éprouver la foi de leurs parents. Des filles qui restaient, l'aînée, Marie-Louise, qu'on appelait Marie tout court par privilège d'ancienneté, n'avait pas loin de 14 ans lorsque naquit la dernière, Thérèse. Entre-temps, la guerre éclata. La petite maison de dentelle qu'avait fondée Zélie Guérin et qu'elle n'avait pas cessé de diriger avait, grâce à son sens pratique, aussi averti que sa foi, prit une telle extension qu'en 1870, M. Martin céda sa boutique d'horlogerie pour seconder sa femme dans un labeur chaque jour plus accaparant. Rien ne le retenait rue du Pont-Neuf, car il avait perdu son père. Il y subit pourtant encore les misères de l'invasion. Si on ne l'eût pas retenu, il se fût engagé dans les francs-tireurs malgré son âge. Son beau-père était mort aussi. Il hérita la maison de la rue Saint-Blaise. La famille s'y regroupa et y vécut 7 ans durant. Nous voici revenus au futur berceau de la Sainte. N'est-ce pas à peu près ainsi qu'était née la Vierge Marie d'Anne et de Joachim ? Nous rapporte la tradition. Au lendemain de la mort de Marie-Hélène, à 5 ans et demi, la sœur de Madame Martin, religieuse à la Visitation du Mans, lui écrivait ingénument. Je ne puis m'empêcher de te trouver heureuse, de donner au ciel des élus qui seront ta joie et ta couronne. Et puis, ta foi et ta confiance, qui ne vacillent jamais, auront un jour leur rétribution magnifique. Sois sûr que le Seigneur te bénira et que la mesure de tes joies sera celle des consolations qui te sont refusées. Car enfin, si le bon Dieu, content de toi, veut bien te donner ce grand saint que tu as tant désiré pour sa gloire, ne seras-tu pas bien récompensé? Nous aurons souvent recours au livre de Monseigneur La Veille, Sainte Thérèse de Lisieux, d'après les documents officiels du Carmel de Lisieux. Et nous aurons également recours au chef-d'œuvre du révérend père Petitot, Vie intégrale de Sainte Thérèse de Lisieux. Mon Seigneur, la veille, rapproche les paroles de celles que Madame Martin adressait à sa belle-sœur de Lisieux à la suite d'un deuil semblable. Quand je fermais les yeux à mes chers petits-enfants et que je les ensevelissais, j'éprouvais bien de la douleur, mais elle a toujours été résignée. Je ne regrettais point les peines et les soucis que j'avais endurés pour eux. Tout le monde me disait « Il vaudrait beaucoup mieux ne les avoir jamais eus ». Je ne pouvais supporter ce langage. Je ne trouvais pas que les peines et les soucis pouvaient être mis en balance avec le bonheur éternel de mes enfants. Voilà qui donne la mesure de la foi de Zélie Martin. On prétend qu'elle fut souvent favorisée de grâces extraordinaires, conseils, pressentiments, illuminations, tant son âme était transparente. Elle cultivait l'idée fixe de donner au monde un grand saint. Ses deux aînés faisaient leur classe au couvent de leur tante au Mans. La santé délicate de la troisième, Léonie, lui causait du souci. Céline commençait à marcher. La petite Marie-Mélanie venait de déserter aussi la terre. Le grand saint désiré, attendu, peut-être promis, ne se montrait pas. En 1872, une nouvelle grossesse rouvrit la porte à l'espérance. Mais ce fut encore une fille qui vint occuper le berceau vacant. L'événement eut lieu le 3 janvier 1873. Les vacances du jour de l'an avaient ramené au foyer Marie et Pauline. Elles ne devaient guère dormir cette nuit-là car leur mère était en souffrance. À minuit, on frappe à leur porte et Monsieur Martin leur annonce la naissance d'une petite sœur. Qui se doutait que cet enfant chétive serait le grand saint attendu? Le lendemain, Marie-Françoise Thérèse Martin fut baptisée à Notre-Dame. Elle pénétra dans la vie de la grâce par le triple porche gothique, aigu, viril et délicat, jaillissant et rejaillissant, couronné d'un jardin de pierre de la plus belle église d'Alençon. Dans la première chapelle à main gauche, rajeunie dans le goût moderne, avec moins de fadeur qu'aucun des sanctuaires néo-thérésiens, on voit encore la cuve baptismale au-dessus de laquelle elle reçut l'Esprit de Dieu. Sa sœur aînée Marie fut sa marraine, mais le nom de Thérèse prévalut sur ses autres noms. L'épreuve de la vie commença aussitôt pour elle. Sa mère dut renoncer à l'allaiter. Thérèse fut mise en nourrice chez une paysanne de Semaillé, Rose Taillé, surnommée la Petite Rose, à quelques kilomètres d'Alençon. Elle y manqua deux fois mourir, tandis qu'une fièvre typhoïde, de l'espèce la plus maligne, mettait aussi la vie de sa sœur Marie en danger. Elles guérirent en même temps à force de prières et de pèlerinages. Le printemps acheva la cure. Thérèse pesait 14 livres à 4 mois. À 10 mois, elle se tenait debout. À 1 an, elle marchait seule. Sur son visage toujours épanoui, sa mère croyait lire une expression de prédestinée. Elle la reprit à la maison. Monsieur Martin fut à Chartres, puis à Lourdes, porter ses actions de grâce. Madame Martin redoubla de soins pour l'enfant. Si l'on ne craignait d'employer un mot que des chrétiens n'appliquent pas aux créatures, on pourrait dire que la dernière venue devint pour ses parents un objet d'adoration. Tout ce qu'elle faisait était bien, tout ce qu'elle disait était beau, tout ce qui lui advenait miraculeux. À 18 mois, elle montait à balançoire, sans aucune espèce de crainte, si ce n'est celle de ne pas s'enlever assez haut. elle tombait du grand lit de sa mère sans se réveiller ni se faire mal. Les anges la portaient. Son séjour en nourrice, dont la chaumière de Semaillé avait fait d'elle une solide petite campagnarde à l'épreuve de tous les maux. Aimable, sensible, passionnée, elle avait pour sa mère une fureur d'amour. Elle ne souffrait pas sans pleurer que celle-ci ne la suivît pas au jardin. Elle la rejoignait sous la pluie battante à la messe. La piété à laquelle on la formait précocement s'annonçait aussi violente, aussi exigeante que sa nature. Elle n'aurait pas sauté un mot de sa prière du soir. « Ce n'est pas tout, disait-elle à Monsieur Martin, il fallait aussi demander la grâce. » « Oh, que je voudrais bien que tu mourais, ma pauvre petite mère, » s'écriait-elle, « pour que tu ailles au ciel. » Sa supplique fut entendue. Elle souhaitait aussi la mort de son père dans ses excès d'amour. Elle aimait bien ses sœurs. La sérieuse Marie qui allait quitter le couvent, mais pour y retourner définitivement peut-être. Plus que Marie, Pauline, qui était brûlante, appliquée et un peu vaine de ses dons. Elle s'attacha moins à Léonie, toujours patraque, de caractère difficile, avec pourtant de la persévérance et un bon cœur. Aux yeux de Thérèse, c'étaient les grandes que l'on imite, que l'on envie, mais avec un certain respect. Sa compagne de toutes les heures était la douce et charmante Céline, et celle-ci faisait toutes ses volontés. Thérèse, avant de se lever, se réfugiait dans le lit de Céline et s'accrochait passionnément à elle. La bonne s'étant présentée pour l'habiller, elle eut un jour ce mot charmant. « Laissez-moi, ma pauvre Louise, vous voyez bien que toutes les deux, on est comme les petites poules blanches, on ne peut pas se séparer. » Le poulailler, les fleurs, les chants d'oiseaux tenaient une grande place dans sa vie. Sa sensibilité n'avait jamais trop d'aliments. Madame Martin tâchait de réfréner autant qu'il se pouvait ses accès de tendresse, mais il fallait bien qu'elle s'y prêtât. L'enfant avait pour l'habitude, j'y ai déjà fait allusion, en gravissant l'escalier, de l'appeler à chaque marche. « Maman, maman !» À quoi sa mère répondait « Oui, ma petite fille. » Si elle y eut manqué une seule fois, Thérèse fut demeurée sur place, sans avancer ni reculer. Monsieur Martin l'appelait sa petite reine, il la promenait sur sa botte, la comblait de menus cadeaux. La collection de ses jouets fit foi. Sous ce rapport, elle fut certainement gâtée. Elle put longtemps se figurer que tout lui était dû, qu'elle n'avait qu'à dire « je veux ». Vive, intelligente, étourdie et d'un entêtement presque invincible, quand elle avait dit non, rien n'eût pu la faire céder. Lorsque son père lui tendait les bras, lorsque sa mère voulait l'embrasser dans son lit, elle feignait parfois de les ignorer. Elle se faisait désirer. Elle était femme. Elle aimait avoir les bras nus. Elle se trouvait plus gentille ainsi. Elle faisait des grâces devant la glace. Pour avoir idée de son amour-propre, rappelons-nous l'anecdote du sou. « Ma petite Thérèse, lui dit sa mère, si tu veux baiser la terre, je vais te donner un sou. »« Oh non, ma petite mère, j'aime mieux ne pas avoir de sou. » N'exagérons pas l'importance de ces caprices enfantins, bien qu'elles ne soient plus à nous en faire confidence. Ils avaient leur contrepartie. Non, Thérèse ne craignait pas de peiner ses parents ni de leur résister. Le premier mouvement venait de l'esprit propre. Le second la portait à s'accuser, à se noircir, à demander pardon. Son ange gardien l'inspirait. Alors elle pleurait de honte durant des heures. On avait grand-peine à la consoler. Quelqu'un qu'elle n'acceptait point de contrister, sitôt qu'elle pensait à lui, elle y pensait déjà souvent, c'était l'enfant Jésus. Il existait vraiment pour elle. Elle vivait pour une part dans le monde mystérieux, familier à ses parents, de la réalité surnaturelle. Un jour qu'elle se promenait au jardin, elle vit ou crut voir auprès de la tonnelle deux affreux petits diables qui dansaient sur un baril de chaux avec une agilité surprenante, malgré des fers pesants qu'ils avaient aux pieds. Ayant jeté sur elle des yeux flamboyants, ils furent comme saisis de crainte, se cachèrent au fond du baril, puis s'enfuirent dans la lingerie. Les trouvant si peu braves, elle s'approcha de la fenêtre pour savoir ce qu'ils allaient faire. Les pauvres diablotins étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment fuir son regard. Mesura-t-elle à ce moment le pouvoir de son innocence et s'imagina-t-elle qu'elle vaincrait le démon sans combat? C'est donc qu'elle ignorait encore les antagonismes de sa nature et les armes que celle-ci pouvait fournir à Satan contre Dieu. À 4 ans et demi, cela n'a pas lieu de surprendre. On ne saurait trop insister sur le trait le plus inquiétant, cité et commenté partout, de la première enfance de Thérèse. À lui seul, il la peint. Il résume son caractère, son destin possible, son destin réel. Satan aux aguets le recueille, s'en autorise pour tout espérer. Céline et elle jouaient à la poupée. Leur aînée Léonie leur présenta la sienne, couchée sur une corbeille remplie de robes, de jolis morceaux d'étoffe et autres garnitures. « Tenez, mes petites sœurs, choisissez. » « Mais écoutez, l'enfant. » Céline regarda et prit un peloton de ganses. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour, disant « Je choisis tout. » Et j'emportai corbeille et poupée sans autre cérémonie. En rapportant le fait 15 ans plus tard, Thérèse ajoute pieusement « Lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours ce qu'il y a de plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris que dans la sainteté, les degrés sont nombreux, que chaque âme est libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour son amour, en un mot de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de mon enfance, je me suis écrié « Mon Dieu, je choisis tout !» C'est entendu, mais ne déplaçons pas la question. Nous n'en sommes pas là. Nous nous efforçons de saisir le secret humain, trop humain, ô sœur Thérèse, de votre nature blessée. Longtemps avant d'être une sainte, la petite fille de 4 ans qui, au nez de ses sœurs, s'adjuge toute la corbeille, loin de se donner et de s'oublier, manifeste une avidité, un égoïsme, un esprit de conquête, en un mot, un impérialisme d'une singulière fureur qui devra subir un retournement absolu pour se muer un jour en ce dépouillement tragique. C'est votre nature, Thérèse, que se révèle, qui explose ici. Une nature qu'il faudra dompter comme un cheval de sang qui n'a pas encore connu bride ni selle et qui, s'il n'est pas maîtrisé, risque bien plutôt de vous emporter aux abîmes de la révolte qu'aux cimes de la sainteté. Non, votre mot n'est pas chrétien. Frédéric Nietzsche en aurait rugi d'aise. Comme sur vos traits authentiques, la volonté de puissance la plus irréductible s'y inscrit. Anticipons sur l'avenir. Considérons avec attention telle photographie non retouchée, non adoucie, non choisie parmi les plus molles ou les plus extatiques, la moins posée, car la pose trahit toujours. Un de ces instantanés, par exemple, où la figure de la sainte a été surprise et saisie dans le cloître parmi ses sœurs. Ou encore, de préférence, le plus souffrant et le plus caractéristique des trois clichés de 1897 dans lesquels on la voit tenant sur sa poitrine l'image de la sainte face et celle de l'enfant Jésus. Le sourire implicite, la douceur, la sérénité n'était qu'un mince glacis sur un visage solide et puissant, dur et têtu, impérieux et conquérant, qui sait ce qu'il veut, qui le veut à mort, qui ne cédera pas que sa volonté ne soit faite. Fiat. Telle elle était, telle elle eût demeuré. À 4 ans, elle choisit tout, le mal comme le bien, dans l'expansion de sa vitalité native. À l'âge de raison, c'eût été tout le mal si le milieu et la grâce divine ne s'y étaient pas opposés. Redressée par l'éducation, par la prière et par l'infusion de l'Esprit Saint, en fin de compte, c'eût pour le bien qu'elle opte. Tout le bien, le souverain bien, l'absolu dans sa plénitude. Que les moyens dont elle usera pour l'étreindre, ils sont d'une déconcertante humilité, ne nous aveuglent pas sur une ambition qui est la dominante de son caractère. Elle calquera à petits traits sa propre volonté sur la volonté de Dieu. Voilà le drame de sa vie, le miracle de son destin. C'est sous-estimer l'un et l'autre, réduire indûment la part de la terre comme la part du ciel au cours d'un combat sans merci, que de banaliser son cas et d'amenuiser sa figure. Il faut le redire inlassablement, non, il ne s'agit pas ici d'une humble et tendre petite pensionnaire qui mérita au prix du menu sacrifice d'être ravie d'un coup d'aile au milieu des fleurs, mais d'une créature de passion et de volonté, proie ordinaire de l'orgueil de la vie, que l'éternel amour, sans en amoindrir les puissances, a su mater et acheminer vers ses fins.